RFI, grand reportage. Charlotte Hydrac, le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Bonjour, c'est devenu au fil des ans le grand rendez-vous du début de l'été. Ce 21 juin, c'est le jour de la fête de la musique. Les musiciens amateurs sont à l'honneur dans les rues de France et de plusieurs pays dans le monde. Et à cette occasion, Grand Reportage s'intéresse à la révolution numérique que connaît le monde de la musique. Aujourd'hui, tout devient possible grâce à Internet et notamment pour beaucoup de musiciens amateurs. Certains parviennent à se faire connaître par des millions de personnes et à devenir des vedettes en postant une simple vidéo sur YouTube. La manière d'écouter la musique, elle aussi, complètement changée. Internet, l'accélérateur musical. Grand reportage, signé Edmond Sadaka.
Je suis pas un gangster, pas la peine de mentir, je suis comme toi. Sem. Un gangster, pas la peine de mentir, je suis comme toi.
Vous les avez peut-être reconnus, le trio féminin Ali G. Ces trois jeunes femmes avaient posté il y a 3 ans sur la plateforme YouTube une reprise des grands succès de l'été 2015. Vidéo partagée sur les réseaux sociaux et qui a été vue des dizaines de millions de fois, propulsant ces trois jeunes femmes au rang de vedettes en très peu de temps. Depuis, leurs concerts se jouent à guichets fermés. Elles sont passées notamment à l'Olympia, à Paris à plusieurs reprises. Et elles viennent de sortir un second album dans une grande maison de disques. Un conte de fées comme celui du trio Ali G est la preuve très concrète de l'impact que peut avoir une simple vidéo partagée sur les réseaux sociaux. D'autres artistes ont connu le succès de la même manière. Écoutez Vincent Brunner, spécialiste musical et collaborateur au quotidien Libération.
Si on veut exister, on va dire sur Internet et qu'on est amateur, le mieux c'est d'avoir sa chaîne YouTube, de commencer à se filmer en train de jouer des morceaux. Et maintenant, c'est vrai que depuis le succès de Justin Bieber, des quantités d'autres, YouTube, ça a été une rampe de lancement pour pas mal d'artistes qui ont été repérés comme ça. C'est comme ça que vous faites repérer et après, plusieurs chemins se présentent à vous, quoi.
Et l'un des chemins qui peut se présenter, et cela arrive de plus en plus souvent, c'est qu'une maison de disques attirée par votre succès, ou si vous préférez par le buzz que vous générez, comme l'on dit aujourd'hui, eh bien cette maison de disques vous approche et vous propose de signer un contrat. Un peu le monde à l'envers finalement, car il n'y a pas si longtemps, ces mêmes maisons de disques étaient presque inaccessibles pour un artiste sans notoriété.
Je suis rentré dans la ronde, dans le salon je m'élance et...
Lui s'appelle PV Nova, c'est son nom d'artiste. Il est chanteur, producteur, musicien, sur scène, en solo, en groupe, à la télévision, sur sa chaîne YouTube. Bref, l'artiste multifacette par excellence. Ce trentenaire est devenu une référence dans le monde des YouTubeurs. Tout a commencé pour lui en 2007 et ses vidéos ont été vues des dizaines et des dizaines de millions de fois.
Je fais le robot, ça l'a fait marrer. Mouvement d'épaule, je crois qu'elle va craquer.
J'ai été très matinal à l'heure de YouTube. J'ai découvert ce média en 2007. Ça a été le coup de foudre pour ce que représente cette plateforme en tant que plateforme créative, c'est-à-dire une plateforme où n'importe qui peut produire des vidéos chez soi, les publier et les mettre à disposition du monde entier. Je me suis dit, mais c'est absolument génial. En fait, ils ont ouvert la boîte de Pandore, hein, de la création. Ils ont rendu un truc complètement fou possible et je me suis dit, je vais me filmer chez moi et peut-être qu'il y a des gens en Japon ou alors de l'autre côté de ma rue qui vont regarder mes vidéos et bien aimer. Et j'ai tenté, ça a tout de suite pris. Et je me suis dit, je vais proposer mes chansons et si les gens aiment, ils iront et revoir mon travail d'où qu'il soit, quoi.
Comme un phénix, je renais de mes cendres. Il en faut plus pour ma
chanson. Commencé au tout début par 2 compositions, ça a bien marché sans être la folie. Ensuite, je me suis essayé l'exercice de la reprise, qui est un exercice que j'ai toujours aimé. Et là, ça a commencé à un petit peu plus marcher. C'est-à-dire que la reprise est un tremplin quand t'es un jeune artiste, auteur-compositeur et aussi interprète, pour se faire connaître en tant qu'interprète, dans le but éventuellement de placer ses compositions derrière. En fait, la reprise, c'est un moyen super de trouver des nouveaux publics qui cherchent des vidéos de leur groupe favori repris par un tel ou une telle. Et je suis tombé dans ce vortex de la reprise. Après, j'ai fait plus que ça quasiment pendant 2-3 ans. Donc effectivement, c'est comme ça que moi, je me suis fait connaître.
Erreur fatale, j'aurais pas dû tourner.
Une réussite fulgurante grâce à Internet, Mehdi Benjelloun l'a connu lui aussi. Ce jeune homme de 18 ans est devenu en quelques mois une vedette internationale sous le nom de Petit Biscuit. Son univers à base d'électronique planante vous dit peut-être quelque chose. Mehdi Benjelloun pianotait sur ses synthétiseurs dans sa chambre de lycéen il y a un peu plus de 2 ans. Son succès fulgurant, son manager de l'époque, Thomas Massimi, à la tête du célèbre label électro Posé, l'attribue à la plateforme musicale SoundCloud.
Mehdi donc m'a envoyé un message sur SoundCloud en me demandant de faire un retour sur son morceau, son premier morceau, qui était pas encore sorti à l'époque. Et du coup, je trouvais qu'il y avait quelque chose. Il savait vraiment gérer les instruments parfaitement, la qualité des instruments. Enfin, tout était très très propre en fait depuis de base. Et surtout, il utilisait des choses peu conventionnelles dans la musique électronique. Ses petites voix, il mettait beaucoup de sentiments dans ses morceaux et ça s'est ressenti très rapidement. Il était totalement inconnu. Il avait peut-être 2 à 3 000 abonnés sur SoundCloud, ce qui est vraiment rien du tout. Donc de là, on a commencé à travailler ensemble. Il m'a envoyé plusieurs morceaux, dont le plus connu, du coup, Sunset Lover, qui est sorti quelques mois plus tard, en téléchargement gratuit sur toutes les plateformes. Et puis Alone, qui a été signé donc sur le label Inside Records, sur mon label, du coup.
Proposer sa production sur des plateformes musicales comme SoundCloud ou alors sur des plateformes payantes comme Spotify, c'est à la portée de beaucoup d'artistes, qu'ils soient signés ou non en maison de disques. Mais attention, et en parallèle, il y a un impératif à ne pas perdre de vue, c'est de faire la promotion de son travail sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram ou autre Twitter, car les fans sont devenus les meilleurs alliés des artistes. L'attachée de presse Delphine Corrette en sait quelque chose, elle s'est spécialisée avec son agence Web Promo dans la promotion auprès des médias traditionnels d'artistes en développement, comme par exemple Tamino, un jeune artiste belge d'origine égyptienne. Imagine
girls around town assemble. Quand vous allez en radio, par exemple, proposer un titre d'un nouvel artiste qui est totalement inconnu, qui est en développement, si il se passe déjà des choses sur cet artiste sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'ils regardent en fait. Donc s'il se passe déjà des choses, ils peuvent se dire, tiens, il y a une cible, il y a un potentiel public qui est déjà un petit peu existant, je prends moins de risques à essayer d'aller développer cet artiste que tel autre artiste qu'on leur proposera qui est totalement inexistant sur les réseaux sociaux. Moi, typiquement, quand je travaille, je regarde ça, ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils savent les utiliser? Est-ce qu'ils ont une communauté? Est-ce qu'ils sont complètement vierges? Est-ce qu'ils n'ont rien fait? Est-ce qu'il faut le faire pour eux? Est-ce qu'ils vont le faire eux-mêmes? Ça aussi, c'est très important. Quand c'est les artistes qui le font eux-mêmes, c'est toujours beaucoup plus pertinent et beaucoup plus performant que quand c'est une maison de disques qui va publier des messages relativement impersonnels et anonymes. Ça fonctionne pas. It's an indigo night, there's a chill. Les réseaux sociaux sont des canaux qui permettent de parler aux gens, au public, en direct. Vous maîtrisez parfaitement votre timing. Vous maîtrisez parfaitement votre contenu et vous maîtrisez parfaitement votre message, ce qui n'est pas le cas avec les médias. Donc les réseaux sociaux déjà permettent de se présenter de façon absolument juste par rapport à ce que vous avez envie de renvoyer comme message, comme image, à transmettre votre musique, votre univers de façon vraiment très claire et la plus personnelle et la plus proche de ce que vous faites. La musique urbaine l'a parfaitement compris et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, ça reste quand même la catégorie musicale qui gère le mieux tout ce qui est community management, tout ce qui est rapport direct avec les gens. Alors, sur les réseaux sociaux, le nombre de fans reste important. Maintenant, il faut que ça soit des vrais fans, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit des fans achetés ou des followers achetés qui, effectivement, n'ont aucun intérêt. Il faut qu'il y ait un maximum d'interaction avec ces gens-là. Donc effectivement, c'est pas forcément que la quantité, ça va surtout être la qualité.
Et parmi les autres nombreux exemples de réussite grâce à Internet et aux réseaux sociaux, celle du groupe parisien Voxlo qui mélange habilement musique électronique et esprit punk. Ils ont été repérés après avoir mis en ligne l'un de leurs morceaux sur SoundCloud, leur première démo. Jean-Christophe Coudert est avec Benoît Raymond, l'un des 2 fondateurs du groupe. Il raconte la suite.
Ce morceau, derrière, a eu pas mal d'échos. Et derrière, on a continué à poster nos démos et pas mal de DJ ont commencé à s'intéresser à notre page, à nous demander de leur fournir les morceaux qui étaient en démo et se sont mis à les jouer. Et de là, un an après, le label de Jennifer Cardini, qui s'appelle Correspondant, nous a contactés pour sortir un deuxième morceau. Et de là, les choses sont enchaînées au fur et à mesure.
SoundCloud, c'est donc l'une des plateformes sur lesquelles on peut faire écouter son travail. Mais ces plateformes spécialisées, elles sont nombreuses. Comment s'y retrouver dans cette jungle? Faut-il faire des choix? Faut-il être omniprésent? Vincent Brunner, spécialiste de la musique, collaborateur à Libération.
C'est vrai que le problème pour un musicien qui veut être présent sur les réseaux sociaux, c'est qu'il doit s'adapter à tous les supports. En fait, chacun, que ce soit, on va dire, Facebook, SoundCloud, Twitter ou Instagram, ils ont une spécificité et qu'il faut utiliser, qu'il faut savoir maîtriser. Sur YouTube, vous allez mettre des vidéos. Sur SoundCloud, ça va être du son. Sur Twitter ou Instagram, ça va plutôt être une présence pour entretenir en fait une proximité avec votre public. Donc, malheureusement, parce que c'est énormément chronophage, il faut que les artistes puissent maîtriser ça. Ou alors, et c'est peut-être une bonne solution, quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec tous ces outils peut peut-être avoir une personne, une aide qui soit pour qui c'est naturel. Après, c'est vrai qu'on a des artistes comme Big Flo et Oli, par exemple, pour qui, eux, c'est naturel. Ils ont commencé à mettre des vidéos sur YouTube. Ils sont présents, ils donnent de leur temps et on voit que c'est pas quelqu'un qui le fait à leur place.
L'autre nerf de la guerre, c'est évidemment l'argent. Et là encore, les réseaux sociaux permettent à certains artistes, surtout lorsqu'ils sont un peu connus, de trouver le financement nécessaire et se passer de maisons de disques. Ça s'appelle le financement participatif, plus connu sous le nom de crowdfunding, un terme venu tout droit des États-Unis. Tout récemment, une figure du rock féminin français, Mademoiselle K, a financé son projet de la sorte. Sa maison de disques l'avait abandonnée en cours de route. Elle s'est donc retournée vers son public, ses fans, et elle travaille désormais, comme elle dit, en indé, comprenez, en indépendant.
Quand je n'aurai plus les... On savait déjà depuis quelques mois qu'on allait faire pour cet album appel à un crowdfunding, donc à un financement participatif. On est passé par la plateforme Ulule. Et bon, on a demandé 20 000 euros à la base, et puis au final, on a eu 67 000 euros. Ce qui est génial, parce qu'en fait c'est pas un appel aux dons qu'on a fait, c'est des produits qu'on a mis en vente, donc des produits de merchandising, des sweats à capuche, une culotte un peu marrante où je tirais la langue, ça a beaucoup fait marrer les gens, voilà. Puis il y avait des paliers comme ça, et puis bon, on sait jamais vraiment quand on se lance, même si ce que je dis aux gens, j'ai fait une vidéo de présentation de mon projet, de pourquoi je faisais appel aux gens. Et c'était intéressant parce qu'il y a plein de gens qui réalisaient à ce moment-là ce que c'est être un artiste indé, qui disaient « Ah ouais, c'est vrai, Mademoiselle K, bah ouais, je connais Jaloux, je connais ça. » Et donc je précise bien, je commence la vidéo en disant au tout début « Tu m'as peut-être vu à la télé, tu m'as peut-être entendu à la radio. » Et du coup tu dis peut-être « Ouais, Mademoiselle K, c'est cool pour elle. » Mais en fait, oui, c'est cool pour moi, mais en fait, faut savoir que je suis en indé depuis deux albums. Et que pour la première fois, j'ai besoin de vous, parce qu'on a j'ai besoin de thunes pour produire mon album. On a eu les 20 000 euros en moins de 12 heures. Donc c'était un geste très fort, ça veut vraiment dire que les fans ils sont là et qu'ils vous soutiennent à fond, quoi. Les gens disent c'est notre album. Donc voilà, c'était important. On sera déjà ailleurs dans des sphères supérieures.
Si la musique se fabrique de plus en plus sur Internet et grâce à Internet, son mode d'écoute ne cesse de se développer lui aussi par le biais du net. Les habitudes d'écoute sont en train de changer de manière radicale et surtout chez les jeunes, on n'achète plus de disques.
J'écoute beaucoup sur Internet. Avant, au départ, j'achetais les CD physiquement et là j'écoute tout sur Internet la plupart du temps.
Elsa a 18 ans, début juin elle assistait au festival musical Wheel of Green à Vincennes aux portes de Paris. Comme beaucoup de jeunes de son âge, elle n'écoute la musique que sur Internet en s'abonnant à une plateforme musicale. Ça ne coûte pas cher, ça s'appelle le streaming, traduisez un flux d'écoute en continu. Et ses deux étudiants, Victor et Florent, l'ont adopté.
J'écoute sur les plateformes parce que c'est plus simple, ça prend moins de place et on peut la transporter partout où on va, on peut l'enregistrer sur notre téléphone, alors que les disques c'est encombrant, ça prend de la place, faut les acheter, ça coûte plus cher qu'un abonnement par exemple Spotify, Apple Music, etc. qui coûte pour nous les étudiants c'est 5 euros par mois, c'est même pas le prix d'un CD et on a toutes les musiques, c'est illimité. J'ai aucun CD, j'écoute tout sur mon téléphone, c'est beaucoup plus simple. toutes les personnes que je connaisse, en général, plus personne n'écoute de CD.
C'est plus simple pour nous d'être sur une plateforme où on a absolument toutes les musiques à disposition. Et puis surtout, j'ai beaucoup de mal à écouter un CD en entier, en fait. Je trouve que vraiment, je préfère prendre les meilleures musiques de chaque artiste, et c'est plus quelque chose qui me plaît, que d'être forcé d'écouter toutes les musiques d'un CD, en fait.
Et grâce au streaming, l'industrie musicale retrouve la forme après une grave crise économique commencée dans les années 2000. Cela fait 2 ans à peu près que les choses vont mieux grâce à ces abonnements payants. Les profits, certes, sont encore timides et bénéficient avant tout aux grandes maisons de disques, mais pas encore à beaucoup d'artistes. Ils comptent toujours ces artistes sur les concerts pour gagner leur vie. Mais le streaming, l'écoute sur abonnement, c'est la solution, assure beaucoup de professionnels.
Moi, j'ai l'impression qu'on est arrivé à quelque chose.
Olivier Laïc, producteur d'artistes et cofondateur du label indépendant de disques Atome.
Il faut répondre à la demande des consommateurs. Et les consommateurs ont envie d'avoir accès à 100% de l'offre. Ils n'ont pas envie de se limiter à un seul projet. Donc le service qui est proposé d'abonnement avec un accès à 100% du catalogue me paraît, pour les fans de musique, un modèle hyper intéressant.
Le streaming serait donc un début de solution pérenne pour permettre à l'industrie du disque de retrouver des couleurs, le SNEP. On est persuadé, le SNEP, c'est le puissant syndicat national de l'édition phonographique, car la vente sur les plateformes représente aujourd'hui plus de la moitié des revenus de cette industrie du disque. Le directeur général du SNEP, Guillaume Leblanc, attribue le succès de cette habitude d'écoute à l'évolution des mentalités.
On ne paye plus pour posséder, comme on possédait un CD ou on achetait un titre sur iTunes par exemple. On paye pour avoir accès à un catalogue de millions de titres. Et ça, c'est un modèle vertueux qui rapporte de plus en plus à la création après des années de crise où le marché a perdu en France 70% de sa valeur.
Alors la rémunération des artistes par le biais de ce système, comment se fait-elle ?
Alors, la rémunération, ce qui est innovant pour tout le monde, y compris les producteurs et aussi les artistes, c'est qu'elle dépend du volume d'écoute, du nombre de clics que vous allez avoir sur votre chanson. Donc c'est assez déstabilisant par rapport au modèle d'avant où finalement vous achetiez un CD, une fois qu'il était acheté, que vous l'écoutiez 1 ou 40 000 fois, la rémunération restait la même. Là, votre rémunération est proportionnelle au nombre d'écoutes et vous êtes en concurrence sur des plateformes qui sont mondiales avec des artistes qui sont partout dans le monde. Donc c'est un peu plus compliqué à appréhender, mais ce qu'on constate, c'est que puisque la croissance revient, par définition, tout le monde est gagnant. Notre principal obstacle aujourd'hui, même si c'est un partenaire, s'appelle YouTube. Pourquoi ? Parce que YouTube, c'est la première plateforme de musique au monde. Tout le monde va sur YouTube, mais paradoxalement, c'est celle qui paye, et de loin, le moins, les créateurs et les artistes.
Et il semble décidément bien loin le temps du disque vinyle, les fameux 33 et 45 tours. Mais c'est sans doute l'un des phénomènes les plus surprenants de notre époque. Depuis quelques années, un grand nombre de passionnés de musique revient au format vinyle. L'objet se transmet, il se partage et la tendance ne cesse de se confirmer. La galette de cire avec son look rétro suscite un engouement discret mais constant chez les passionnés de musique. Guillaume Leblanc.
Depuis 2008, le vinyle en France ne cesse de progresser et l'année dernière, il y a eu quasiment 3 millions de vinyles qui ont été vendus dans notre pays. Je pense que dans ce monde un peu tout numérique, voilà, numérisation à marche forcée de tous les secteurs, parfois les consommateurs ont besoin de se raccrocher à un objet qui peut matérialiser justement une envie. Vous savez, la musique, c'est un achat souvent un peu compulsif de cœur, de passion, et je pense que le vinyle illustre bien justement l'attachement des consommateurs à leurs artistes, et c'est un bel objet. Qui permet justement d'être tout à fait complémentaire d'une écoute de musique en ligne. Donc les perspectives sont intéressantes pour le vinyle, et d'ailleurs il y a même des gens qui se rééquipent en platine derrière, etc. Donc il y a toute une industrie qui est en train de renaître. Ça reste encore une consommation non pas de niche, mais qui représente assez peu de revenus.
C'était Internet, l'accélérateur musical, un grand reportage d'Edmond Sadaka à la réalisation Laurent Salerno.